Le lendemain matin du meurtre, dimanche 4 avril 1999. L'audition des parents d'Alaska Sanders terminée, Gale, Wood et Vance les raccompagnèrent jusqu'à l'entrée du quartier général de la police d'État. « On a pris un hôtel pas loin », indiqua Robbie Sanders. « On n'a pas trop le cœur à être chez nous en ce moment. » « N'hésitez pas à nous appeler pour quoi que ce soit », leur dit Vance. « Vous avez nos portables, on est à votre disposition », insista Gale Wood.
« On a besoin de réponses », murmura Donna Sanders en retenant un sanglot. « On a besoin de savoir ce qui s'est passé. Qui a pu faire ça à notre fille ?»«
Et les équipes fonctionnent au ralenti pendant les week-ends, mais le médecin légiste m'a assuré qu'on aurait son rapport d'ici demain midi. On vous tient au courant dès qu'on a du nouveau, promis. »
« Mieux vaut être assassiné un jour de semaine »,
ironisa amèrement Donna Sanders. Les parents s'en allèrent, Gale, Wood et Vance les regardèrent s'éloigner. Leur démarche laissait transparaître leur tristesse. Gale, Wood tenait en main la photo d'Alaska que venait de lui laisser Donna Sanders, ainsi qu'un article de journal qu'elle lui avait confié, datant du mois de septembre. On y voyait Alaska en robe mousseline, entourée de ses parents. Et le titre au-dessus, Alaska Sanders, élue Miss Nouvelle-Angleterre. Quel gâchis, dit-il en fixant le sourire d'Alaska. Je vais la transmettre à la presse sans attendre. Ils remontèrent au premier étage qui abritait les locaux de la brigade criminelle et regagnèrent leur bureau où s'était installé depuis le matin un troisième équipier, Nicholas Kaczynski, détaché par Lansdane pour les aider. Un troisième enquêteur ne serait pas de trop, et en particulier un profil comme Kaczynski qui maîtrisait bien l'informatique et les technologies. « Vous avez reçu un appel d'un certain Lewis Jacob », annonça Kaczynski en voyant ses collègues entrer dans la pièce. « Il voudrait que vous passiez le voir. »«
À quel sujet ?»
demanda Vance. « Il souhaite vous montrer quelque chose, il ne m'a rien précisé. Il a juste dit qu'il était toute la journée à la station-service. »«
On va aller le voir. » À propos de station-service, tu as réussi à accéder au fichier des caméras vidéo ?
Kaczynski eut un sourire triomphant. Un jeu d'enfant, venez voir. Sur son écran d'ordinateur, Kaczynski avait disposé côte à côte deux fenêtres correspondant aux deux caméras dont la station-service était équipée. L'une à l'extérieur qui filmait les pompes, l'autre à l'intérieur du magasin qui filmait les clients à la caisse. Kaczynski fit défiler en accéléré la journée du vendredi 2 avril. Les policiers purent constater le passage sur le parking d'une famille de ratons laveurs à 6 heures du matin. Puis à 7 heures, Lewis Jacob arrive à la station-service et ouvre le magasin. On le voit s'activer à l'intérieur, préparer du café. Pendant l'heure suivante, il sert quelques clients. À 8 heures, la décapotable bleue d'Alaska Sanders fait son apparition sur le parking. C'est bien la jeune femme qui sort du véhicule. Elle rejoint le magasin à son tour. Elle salue Lewis Jacob, il papote quelques instants. Elle disparaît dans l'arrière-boutique, sans doute pour se changer, et revient vêtue d'un polo aux couleurs de la station. Elle s'installe derrière le comptoir. Commence alors une journée de travail d'apparence monotone et sans rien de particulier. Alaska enchaîne entre l'encaissement de l'essence et le service de café derrière un petit bar installé au fond de la boutique. Les clients défilent, les échanges sont rapides. À deux reprises, Alaska prend une pause de 10 minutes sur le parking en buvant un café. Elle en profite pour pianoter sur son téléphone portable. Vers midi, elle disparaît dans l'arrière-boutique pendant 30 minutes, probablement pour déjeuner. Puis elle reprend son poste. La routine encore. Soudain, à 16h45, après un échange avec Lewis Jacob, Alaska quitte la station-service et part dans sa décapotable. Elle est de retour un peu avant 17h30. Elle sort de sa voiture avec un sac de voyage en cuir brun qu'elle emporte avec elle dans le magasin. Elle le laisse dans l'arrière-boutique et reprend son service.
« Cela correspond exactement à ce que Walter Carey nous a dit », constata Gale Wood en reprenant ses notes. Il est tombé sur elle à l'appartement vers 17h15. Elle est repartie avec un sac en cuir brun dans les minutes qui ont suivi.
La suite de l'enregistrement montre une fin de journée similaire à tout ce qui a précédé. Alaska derrière la caisse, Alaska derrière le bar, Alaska qui dispose les paquets de chips sur un stand. À 19h20, Lewis Jacob disparaît dans l'arrière-boutique. À 19h30, il en ressort cravaté. Il discute quelques instants avec Alaska, il arrange sa cravate dans le reflet d'une vitre, puis s'en va. La caméra extérieure le filme partant au volant de sa voiture. La nuit est sur le point de tomber. Il fait sombre et on ne voit plus grand-chose, à l'exception des pompes qui sont éclairées. À 20h précises, Alaska disparaît dans l'arrière-boutique, puis en revient métamorphosée. Elle porte un pantalon en cuir, un haut élégant et des bottines aux pieds. Elle est habillée pour sortir. « Stop !» dit Vance à Kaczynski pour figer l'image. « Elle est habillée telle qu'on l'a retrouvée !» Un coup d'œil au tableau aimanté qui exposait le cadavre de la jeune femme confirma ce constat.
« Elle est habillée pour ce dîner romantique dont nous a parlé Lewis Jacob, » dit Gaal Wood. « Elle y partait. »«
Qui rejoignait-elle ?» interrogea Kaczynski.
« Ça, c'est la question à $1 million, » répondit Gaal Wood.
Le film reprend. Dans le magasin, Alaska appuie sur l'interrupteur général et tout s'éteint. Seules les lumières des frigos éclairent désormais les lieux. Elle sort, ferme la porte à clé. Elle a son grand sac en cuir avec elle. Elle glisse les clés du magasin dans la boîte aux lettres, monte à bord de sa voiture et s'en va.
« Pourquoi est-ce qu'elle met les clés dans la boîte aux lettres ?» demanda Kaczynski.
« Peut-être le protocole de fermeture ?» considéra Gaal Wood. « On vérifiera avec le pompiste tout à l'heure. »«
Donc elle part de la station-service et elle va où ?» interrogea Vance.
« Mystère, » dit Gaal Wood. « Le champ de la caméra ne permet pas de voir quelle direction elle prend. »« Nicolas, tu as pu joindre quelqu'un à la compagnie de téléphone ?»«
Oui, » répondit Kaczynski. « Mais malheureusement, Alaska possédait un numéro à prépaiement. Impossible de le tracer ou d'obtenir un relevé des communications. » Tout est dans la mémoire du téléphone.
Merde,
pesta Vance. Ça aurait été trop facile.
Donc impossible de savoir à qui elle a parlé le jour de sa mort. Mais puisque son téléphone a disparu, on peut supposer qu'elle connaissait son meurtrier et qu'ils ont certainement échangé par téléphone. Il a récupéré son portable après l'avoir tué pour éviter qu'on remonte à lui.
Et c'est le meurtrier qui envoie des lettres de menace à Alaska ? Demanda Kaczynski.
Probablement. Répondit Gaal Wood. Il y aurait une forme de logique à ce que ce soit le cas.
Je sais ce que tu as fait, dit Vance en relisant le texte des messages de menaces affichés au tableau aimanté. Qu'est-ce qu'Alaska aurait fait?
L'expérience des policiers les incitait à ne pas se perdre en conjectures. Il fallait commencer par les hypothèses les plus probables et les plus évidentes, et l'une d'elles vint aussitôt à l'esprit de Gaal Wood. Le suspect le plus probable à ce stade était le petit copain.
Walter Carey soupçonne Alaska de le tromper. Il lui envoie ses messages pour la faire paniquer. Quand elle le quitte, il ne peut pas l'accepter. Il lui donne rendez-vous à Grey Beach et il la tue. Il a prévu le coup. Il s'est garé sur le chemin forestier pour ne pas être vu. Son crime accompli, il se débarrasse de son pull couvert de sang, remonte en voiture pour s'enfuir, mais dans la précipitation, il emboutit un arbre.
« Pour que ta théorie tienne la route, » fit remarquer Vance, « il faudrait que Walter Carey conduise une voiture noire. »«
On va interroger tout de suite la base de données de la police, » décréta Kaczynski. « Voyons voir si Walter Carey a une voiture enregistrée sous son nom. » Kaczynski pianota sur son clavier d'ordinateur. Après quelques manipulations, il annonça
« Walter Carey possède une Ford Taurus noire. »«
Bingo !»
s'exclama Vance. On devrait tout de suite aller à Mount Pleasant pour vérifier s'il ne manque pas un phare arrière à la voiture de Walter Carey.
Intact, constata Kaczynski.
Les trois policiers observaient la Ford Taurus noire garée devant le magasin de chasse et pêche. Les deux phares arrière étaient entiers et la carrosserie ne présentait aucune trace de choc.
C'est bien la sienne ? Demanda Gaal Wood.
Oui, c'est sa plaque d'immatriculation, assura Kaczynski.
« Ma théorie tombe à l'eau, »
regretta Gaal Wood. À cet instant, Walter Carey, qui venait d'apercevoir les policiers depuis son appartement, les interpella par la fenêtre.
« Bonjour, messieurs. Des nouvelles ? »
« Est-ce qu'on peut monter ?» demanda Gaal Wood.
« Bien entendu. »
Quelques minutes plus tard, les enquêteurs étaient installés dans le salon de Walter Carey. Ses parents étaient présents également. Ils étaient rentrés précipitamment de leurs vacances dans le Maine pour entourer leur fils. Sur la table basse du salon, des photos d'Alaska étaient éparpillées. La mère de Walter, Sally Carey, les empila et les déposa sur un meuble.
« Ça ne sert à rien de ressasser, » dit-elle à son fils.
Ce dernier avait la mine défaite.
« Je me sens tellement vide, » confia-t-il au policier. « Tout ça est irréel. »«
J'imagine, » lui dit Galwood.
« Vous avez une piste ?»«
Pas encore, mais on s'interrogeait sur les motifs de votre rupture. Vous nous avez dit hier que votre couple battait de l'aile. Son employeur, le pompiste Lewis Jacobs, semblait l'avoir remarqué également. »
Alaska, elle avait de grands rêves. Elle se voyait actrice, tournée dans des films, une vie de star, quoi. Moi, je suis bien ici. Donc évidemment, ça créait des tensions. Et puis, c'était pas toujours simple de trouver du temps ensemble. Le samedi, j'étais souvent occupé au magasin, et le dimanche, elle partait prendre l'air. Elle disait qu'elle avait besoin de temps pour elle.
Elle partait où?
J'en sais rien, mais ces deux derniers mois, elle aidait Lewis Jacob à la station-service, car la deuxième employée s'était barrée du jour au lendemain.
On a parlé avec les parents d'Alaska. Ils semblaient perplexes quant à son choix de s'installer à Mount Pleasant.
Et j'imagine qu'ils vous ont parlé de New York.
Effectivement.
Alaska avait besoin de mettre un peu de distance entre elle et eux. C'est pour ça qu'elle avait quitté Salem.
Elle aurait mis davantage de distance en allant à New York, fit remarquer Vance.
Pas forcément. À New York, ses parents seraient venus lui casser les pieds. Ils étaient tout le temps sur son dos. Ici, elle était avec moi. Elle savait que ses parents ne s'imposeraient pas.
Est-ce que vous pensez qu'elle voyait quelqu'un d'autre? Demanda Galwood.
Si elle me trompait?
Non.
Enfin, j'en sais rien. Vous pensez qu'elle est partie à cause d'un autre mec?
Je m'en doutais, intervint Sally Carey. Je pense qu'elle avait une histoire avec Eric Donovan. C'est d'ailleurs la première chose que j'ai dite à Walter quand il m'a téléphoné hier pour m'annoncer qu'Alaska venait de le quitter.
Mais arrête, Ma, tu racontes n'importe quoi. Il n'y a jamais rien eu entre Eric et Alaska.
Et puisque je te dis que je les ai vus. Mais tu n'as rien vu.
Qu'est-ce que vous avez vu, Madame Carey? Demanda Galwood.
C'était il y a deux semaines. Walty était absent. Il était parti quelques jours à une convention de matériel de pêche au Québec. Bref, moi j'étais au magasin et j'ai vu Eric et Alaska sur le trottoir. Ils étaient en train de se disputer.
Quel genre de dispute?
Une dispute de couple, affirma Sally Carey. Alaska a dit à Eric quelque chose du genre « après ce qu'on a vécu » et lui a répondu « tu veux qu'on en parle à Walter ?» Je les ai de nouveau surpris le lendemain à se disputer encore. C'est pas anodin.
Mais arrête, Ma!
Insista Walter. Vance reprit le fil de la discussion.
Walter, je sais que nous en avons déjà parlé hier, mais pouvez-vous nous raconter à nouveau votre soirée de vendredi?
J'ai fermé le magasin à 19h. Le temps de ranger, de contrôler la caisse, je suis remonté chez moi vers 19h30. Je me sentais complètement perdu, désemparé. Mes parents m'ont appelé. Je leur ai raconté qu'Alaska m'avait quitté.
Walty était dans un état,
intervint à nouveau sa mère qui avait visiblement besoin de s'exprimer.
Je ne voulais pas qu'il reste seul. Je lui dis d'appeler un copain et de sortir.
Et vous l'avez fait, dit Galwood à Walter. « Puisque vous êtes allé voir le match de hockey au bar National Anthem, si je me souviens bien de notre conversation d'hier. »«
Exactement. »«
Qui était ce copain ?»«
Eric Donovan. »«
Celui dont votre mère pense qu'il avait une liaison avec Alaska ?»«
Mais il n'y a jamais rien eu entre eux, » s'agaça Walter. « Eric est mon meilleur ami, je le connais depuis toujours. »« Ses parents possèdent le magasin d'alimentation d'à côté. »« Hier après-midi, entre deux clients... » Je suis allé le trouver pour lui raconter ce qui venait de se passer. Il m'a dit de venir regarder le match le soir au National Anthem, que ça me changerait les idées. C'est donc ce que j'ai fait. Je suis allé au bar.
Comment vous y êtes-vous rendu?
À pied, c'est à 5 minutes.
Quelle heure était-il?
Et je suis parti d'ici autour de 20h, 20h15 peut-être, je sais plus très bien. Le match avait déjà commencé.
Il y avait quelqu'un d'autre avec vous?
La sœur d'Eric, Lorraine. Elle étudie à Durham, mais elle était rentrée à Mount Pleasant pour le week-end.
Galwood et Vance échangèrent un regard. Lauren Donovan était la joggeuse qui avait découvert le corps.
Jusqu'à quelle heure êtes-vous resté dans ce bar ?
Et jusqu'à la fermeture, après 2 heures du matin.
Je n'avais rien de mieux à faire. Et ensuite ?
Je suis rentré à la maison et je me suis couché aussitôt. J'étais dans un drôle d'état. Hier matin, dès l'ouverture du magasin, tous les clients parlaient d'une femme retrouvée morte à Grey Beach.
Vous avez pensé à Alaska ?
Et pas une seconde. Je pensais qu'elle était dans le Massachusetts, chez ses parents. Walter ne put retenir ses larmes plus longtemps.
Gale Wood posa une main sur son épaule.
Pardonnez-moi d'ajouter des tracas à votre peine, Walter. Mais est-ce que vous pourriez venir déposer au quartier général de la police d'État demain ? Nous avons besoin d'enregistrer votre témoignage officiellement.
D'accord. Je serai là à la première heure, si ça vous va.
Les enquêteurs se demandaient pourquoi Lorraine Donovan ne leur avait pas indiqué qu'elle avait passé la soirée avec le petit copain de la victime. En sortant de chez Walter Carré, ils décidèrent d'aller lui poser la question. Le magasin d'alimentation étant fermé le dimanche, les policiers se rendirent au domicile de Janet et Mark Donovan, les parents d'Eric et Lorraine. Ils habitaient une jolie maison en planches dans le quartier résidentiel de Mount Pleasant. Toute la famille était réunie autour d'un déjeuner que les policiers interrompirent. Ils furent néanmoins chaleureusement accueillis et durent batailler ferme avec Janet Donovan pour refuser l'assiette de chili con carne qu'elle voulait leur servir.
Nous ne vous dérangerons pas longtemps, promit Vance. Nous avons quelques questions au sujet d'Alaska Sanders et de la soirée de vendredi.
Il se tourna vers Eric.
Walter Carré dit que vous étiez ensemble au National Anthem pour regarder le match de hockey.
C'est exact, répondit Eric. Ma sœur était là aussi.
Vance s'adressa alors à Lorraine.
Lorsque nous vous avons interrogé hier à la station-service, pourquoi ne pas avoir mentionné que vous aviez passé la soirée avec le petit copain de la victime ?
J'étais sous le choc de la nouvelle, j'imagine. Je ne pensais qu'à la vision atroce de cet ours sur ce corps. Tout au long de la matinée, c'était Peter Phillips, le policier qui avait abattu l'ours, qui nous tenait informés de la situation. Il appelait ses collègues, il nous répétait tout et n'importe quoi. Il était paniqué. Il se demandait s'il aurait des ennuis pour avoir abattu un ours. Puis un autre coup de fil, et cette fois, il nous apprend que c'est Alaska Sanders qui a été retrouvée morte. Lewis Jacob, le pompiste, s'est effondré. Moi, je ne pouvais pas y croire. Comme je vous le disais, j'étais sous le choc.
Vous connaissiez bien la victime ?
Bien, non. Mount Pleasant est une petite ville et tout le monde se connaît un peu. Je ne suis pas souvent ici. J'étudie la biologie à l'université du New Hampshire à Durham.
À quelle fréquence revenez-vous à Mount Pleasant ?
C'est irrégulier. En ce moment, un peu plus, car Eric et moi, nous nous entraînons ensemble pour le marathon de Boston qui a lieu dans 3 semaines. En général, j'arrive le vendredi et je repars le lundi dans la matinée. Je n'ai pas cours le lundi matin.
Revenons sur votre soirée d'avant-hier, vendredi.
Je suis arrivé tard ici. Le trajet depuis Durham avait été interminable. Je suis allé directement au National Anthem.
Quelle heure était-il lorsque vous êtes arrivé au bar ?
20h30.
Lorraine avait répondu avec assurance.
Vous semblez bien précise,
puis dit Vance.
Est-ce que vous êtes certaine de l'heure ?
Oui, parce que je suis systématiquement en retard. J'avais dit à Eric que je serais là à 18h30. En entrant dans le bar, j'ai vu la grande horloge murale en forme de bouteille de bière et je me suis fait la remarque que j'avais 2 heures de retard.
Walter était là ?
Non.
2 jours plus tôt, soir du vendredi 2 avril 1999. Il était 20h30. Le National Anthem sur la rue principale était bondé. Sur des écrans géants était diffusé le match de hockey opposant les Devils du New Jersey à Tampa Bay. Installé au comptoir, Eric Donovan luttait pour garder libres les 2 tabourets à côté du sien. Finalement, sa sœur arriva, se frayant un chemin parmi la foule.
« Désolé du retard, » dit-elle en déposant un rapide baiser sur la joue d'Eric. « La circulation était infernale. »
Elle s'installa sur l'un des tabourets et héla le barman pour commander une bière.
« Pour qui est ce tabouret ?» demanda Lorraine en voyant Eric protéger jalousement le 3e siège de la convoitise d'autres clients.
« Walter, je ne sais pas ce qu'il fabrique d'ailleurs. Sa copine vient de le larguer. Je lui ai dit de venir se changer les idées avec nous. »
Alaska et lui, c'est fini ?
Apparemment. Ça ne pouvait pas marcher de toute façon. Elle rêve de devenir une grande actrice et lui vend des cannes à pêche dans une ville de campagne. »
Une clameur monta parmi les clients. Les Devils venaient de marquer. Walter les rejoignit à ce moment-là. Il avait mauvaise mine. Il raconta brièvement le départ soudain d'Alaska, mais lorsque Lorraine voulut lui poser une question, il répondit « Pas envie de parler de ça. »
Ils dînèrent de hamburgers et burent pas mal de bière, surtout Eric et Walter. Lorraine faisait attention. Elle et son frère avaient prévu un entraînement de course à pied le lendemain matin. Elle voulait être en forme.
Le match terminé, après une dernière bière, Eric et Lorraine quittèrent le bar. Il était 23 heures. Ils rentrèrent chez leurs parents. À 6h15, le lendemain, Lorraine s'inquiéta de ne pas voir Eric dans la cuisine. Elle le trouva encore au lit, malade d'avoir trop bu la veille. Elle décida d'aller s'entraîner malgré tout. Elle laça ses chaussures et partit.
La suite, vous la connaissez, déclara Lorraine au policier.
Donc, vendredi soir, vous avez quitté le bar à 23 heures.
Oui, 23h15 maximum, précisa Eric. On était de retour ici avant 23h30.
Et Walter Carré est parti avec vous?
Non, il est resté là-bas. Il a dit qu'il n'avait aucune envie de se retrouver seul chez lui.
Galloway considère Eric, un beau jeune homme dans la trentaine comme Walter Carré, solidement bâti, à la chevelure d'un roux léger. Il lui demanda
« Vous habitez ici, chez vos parents ?»«
Oui, » répondit Eric, « mais c'est provisoire. »«
Du provisoire qui dure, » le taquina Lorraine.
Eric ressentit le besoin de se justifier.
« J'ai fait mon université dans le Massachusetts, puis j'ai trouvé un emploi à Salem. Je travaillais au développement d'une petite chaîne de supermarchés. Je ne m'entendais plus avec mon chef, qui m'a finalement licencié l'automne dernier. J'ai saisi l'opportunité de revenir à Mount Pleasant et développer le magasin de mes parents. Je voudrais créer une chaîne régionale très qualitative. Il y a un marché pour ça. Et puis mon père n'est pas au meilleur de sa forme. Je suis content de lui donner un coup de main et de le soulager un peu. »
Le père d'Eric, Mark Donovan, intervint alors.
J'ai eu un petit pépin de santé, mais maintenant tout va bien. Effectivement, la présence d'Eric à l'automne nous a bien aidés. Ça aurait été compliqué sans lui.
Galloway se tourna vers Eric.
« Vous avez donc vécu à Salem ?»«
Oui, pendant presque 5 ans. »«
Comme Alaska ?»«
Absolument. Je l'ai rencontrée là-bas, au printemps dernier. On se croisait dans les mêmes bars. Elle était majeure depuis peu et elle sortait régulièrement avec un même groupe de copines. Walter venait me voir de temps en temps à Salem. Un soir, ils se sont rencontrés et ils se sont plu. »«
Donc, c'est vous qui avez présenté Walter à Alaska ?»
Ils se sont présentés tout seuls, mais ils se sont rencontrés par mon intermédiaire, oui.
Est-ce qu'il y a eu quelque chose entre vous et Alaska?
Eric eut l'air très étonné de la question.
Si vous sous-entendez que nous avons eu une liaison, non, ce n'est pas le cas. Il n'y avait absolument rien entre nous. C'était juste une fille qui sortait du lot et je l'appréciais beaucoup. Pourquoi pensez-vous qu'il y aurait eu quelque chose entre Alaska et moi?
Sally Carré avait cette impression, dit Galloway.
Sally? Pourquoi vous aurait-elle dit une chose pareille?
C'est ce que lui aurait évoqué votre comportement. Elle dit qu'Alaska et vous, vous seriez disputés à 2 reprises il y a environ 2 semaines.
Eric s'amusa de cette remarque. Je n'ai pas le souvenir d'une dispute. Alaska, elle a son caractère, vous savez. Elle dit ce qu'elle pense. Enfin, elle disait.
Vous avez une copine?
Demanda Galloway. Non, j'avais quelqu'un à Salem, ça s'est terminé à l'automne dernier. Entre ma rupture et mon licenciement, il était temps de partir.